VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 18h30 universelle du mardi 15 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Une quinzaine de personnes tuées à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. Deux casques bleus de la MONUSCO portés disparus en République démocratique du Congo. Assassinat d'un préfet au Burkina Faso dans une région frontalière du Mali par des djihadistes présumés.
Si on peut avoir accès aux premières autorités dans un département, les plus hauts à l'abri dans ce département.
Une manifestation d'étudiants au Sénégal a fait un mort dans une université du nord du pays. Et la Ligue arabe demande à la CPI d'ouvrir une enquête sur les violences d'hier dans la bande de Gaza. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Nouvelle violence à Bambari, dans le centre de la Centrafrique. Au moins une dizaine de personnes ont été tuées, de nombreux autres blessés dans des représailles suite à l'assassinat de trois membres de la communauté Peul à Bangui. Pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Jusqu'en début de soirée de ce mardi, la tension était encore vive dans le centre de Bambari. Plusieurs quartiers ciblés par les représailles sont vidés de leurs occupants et des incendies de maisons sont signalés. Selon des sources locales contactées par VOA Afrique, des structures publiques ont été aussi touchées, à l'exemple de la gendarmerie et du commissariat de police. En début d'après-midi, Médecins Sans Frontières, qui appelait au respect des lieux de soins, a indiqué avoir recensé plus de 300 déplacés au sein de l'hôpital de Bambari. Le bilan provisoire de ces violences qui se poursuivent encore fait état d'une dizaine de morts et de nombreux blessés. À l'origine de ce déchaînement de violences, l'assassinat hier de trois membres de la communauté Peul par des inconnus à 7 km du centre de Bambari. En représailles, des hommes armés se réclamant de cette communauté sont pris à des civils innocents, pour la plupart non musulmans. La MINUSCA, accusée de passivité par des habitants locaux malgré une présence militaire dans la ville, n'a pas encore officiellement réagi à cette nouvelle tension. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, deux casques bleus sont portés disparus après une embuscade dans le Tanganyika. Des précisions avec Raissa Girondin.
Selon la MONUSCO, deux soldats du contingent béninois de la mission des Nations Unies sont portés disparus. Ils faisaient partie d'un convoi de casques bleus qui a été attaqué vendredi par des Mai Mai dans la province du Tanganyika. Ce convoi était composé de deux véhicules transportant 13 soldats. 11 ont été relâchés, selon Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, et deux soldats sont toujours portés disparus. Toute la mission est mobilisée pour les retrouver, a-t-elle précisé. En décembre dernier, une base de la MONUSCO a été attaqué dans la région de Beni, dans le nord-est du pays. 15 casques bleus tanzaniens ont été tués, plus d'une cinquantaine de blessés. La MONUSCO est le plus important contingent onusien et la plus coûteuse au monde. Présente depuis 1999 dans le pays, Kinshasa souhaite son retrait définitif en 2020.
Toujours en République démocratique du Congo, la direction du parc de Virunga a annoncé la suspension pour 20 jours des activités touristiques après le meurtre d'une garde du parc et l'enlèvement de deux touristes britanniques. Notre personnel de sécurité évalue la situation sur le terrain afin de garantir que les mesures requises sont en place, a précisé la direction du parc situé dans l'est de la RDC. Le gouvernement camerounais a reconnu que des militaires ont malmené et ligoté un présumé leader séparatiste anglophone lors de son arrestation samedi. Une admission qui fait suite à la publication d'une vidéo montrant un gendarme molestant l'homme. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, le préfet de Oursi, localité frontalière du Mali, a été tué la nuit dernière par des djihadistes présumés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Des individus armés ont abattu Patrick Kabore, préfet de Oursi, chez lui et ont incendié son domicile. L'attaque s'est déroulée autour de 23 heures, mais c'est plus tard que le corps du préfet a été retrouvé non loin de sa résidence. Un ratissage est en cours pour appréhender les auteurs dont l'identité et le nombre n'ont pas été déterminés. La police soupçonne les djihadistes qui sévissent dans la zone. La résidence du préfet a déjà été la cible d'une attaque en mars dernier. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques meurtrières dans le nord. Un bilan officiel a fait état de 133 morts dans 80 attaques. Plusieurs écoles sont fermées, beaucoup d'enseignants craignent pour leur sécurité. Ces derniers mois, une centaine de personnes ont été interpellées et des engins explosifs neutralisés dans des opérations militaires dans les régions de l'Est et du Nord du pays.
Au Sénégal, un étudiant a été tué, 18 gendarmes ont blessé à l'université de Saint-Louis dans le nord du pays. Les étudiants réclamaient le paiement de leur bourse et les forces de l'ordre sont intervenues. Le point avec Marie Benson.
Une manifestation estudiantine à Saint-Louis a dégénéré, causant la mort d'un étudiant. Les étudiants réclamaient leur bourse. Il y a eu des échauffourées avec les forces de l'ordre. 18 gendarmes et plus de 20 étudiants ont été blessés. Selon le ministre de l'Intérieur, les étudiants voulaient manger sans payer le ticket du restaurant universitaire parce qu'ils n'avaient pas reçu leur bourse. Le restaurant a donc appelé les forces de l'ordre. Le ministre a annoncé que des enquêtes seront menées pour comprendre les responsabilités de chacun dans ces violences. Il a ensuite indiqué que les bourses seront payées. Les manifestations des étudiants sont très courantes au Sénégal, mais elles ne font généralement pas de victimes.
En Afrique du Sud, un tribunal a rétabli dans ses fonctions la maire du Cap qui avait été limogée pour faute professionnelle le 8 mai par l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition. Patricia de Lille avait intenté une action en justice contre la décision de son parti de la priver de son poste et affiliation à la DIE qui avait justifié ses mesures en avançant une mauvaise gestion et de la corruption.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Depuis l'inauguration hier de la nouvelle ambassade des États-Unis à Jérusalem, les réactions se poursuivent à travers le monde. La Ligue arabe demande à la procureure de la CPI, la Cour pénale internationale, d'ouvrir rapidement une enquête sur les crimes de l'occupation israélienne contre les Palestiniens, nous avons cité. Et on fait le point avec John Lyndon.
Israël est une entité oppressive et meurtrière et ses politiciens et militaires doivent être traduits devant la Cour pénale internationale, a déclaré Amjad Chamout, président de la Commission permanente des droits de l'homme de la Ligue arabe. Selon les responsables palestiniens, les forces israéliennes ont tué lundi près de 60 manifestants et blessé 2500 personnes le long de la frontière de Gaza. En Arabie Saoudite, le Conseil des ministres réuni sous la présidence du roi Salman a dénoncé le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, estimant que c'est un acte d'une grande partialité contre les droits des Palestiniens qui ont été garantis par les résolutions internationales. Londres réclame une enquête indépendante sur les événements. Berlin aussi s'est dit favorable à l'ouverture d'une enquête tout en rendant le Hamas responsable des violences. S'exprimant au début d'une réunion du Conseil de sécurité, Mansour al-Otabi, ambassadeur du Koweït à l'ONU, soumet un projet de résolution visant à apporter une protection aux civils palestiniens.
John Lyndon et puis la Turquie a demandé à l'ambassadeur d'Israël à Ankara de quitter le pays temporairement pour protester contre la mort de dizaines de Palestiniens la veille sous les balles israéliennes dans la bande de Gaza. La décision d'Ankara marque un nouveau durcissement dans sa réaction à la mort de près de 60 Palestiniens hier par des tirs israéliens. Les États-Unis ont adopté ce mardi de nouvelles sanctions ciblées contre le gouverneur de la Banque centrale d'Iran. Il est accusé d'avoir participé au financement clandestin du groupe islamiste libanais Hezbollah, allié de Téhéran. Ces sanctions, qui visent en tout 4 personnes et une banque, s'appuient sur la décision prise il y a une semaine par le président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. C'est ce qu'a déclaré le département du Trésor dans un communiqué rendu public ce mardi. Par ailleurs, l'Iran, le chef de la diplomatie iranienne, a entamé une tournée internationale pour essayer de conserver l'accord sur le nucléaire. La Corée du Nord veut participer aux efforts pour interdire totalement les essais nucléaires. C'est ce qu'a déclaré son ambassadeur à la conférence du désarmement de l'ONU qui se déroule en ce moment à Genève. La Corée du Nord n'est pour le moment pas signataire du traité d'interdiction complète des essais nucléaires négocié à Genève entre 1994 et 1996. L'opposant russe Alexei Navalny a été condamné à 30 jours plutôt de détention pour avoir organisé une manifestation 2 jours avant l'investiture de l'homme fort du Kremlin. On m'a déjà donné 30 jours, mais le procès continue encore. Ils examinent une autre affaire. Quelle drôle de sensation, a réagi l'opposant sur Twitter. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manerakiza.
En Afrique, la capacité des femmes à créer et à diriger des entreprises est un potentiel énorme pour stimuler la croissance au prochain siècle. Il y a près de 20 ans, les institutions de développement ont réalisé que la fiabilité des femmes, leur volonté de soutenir leur famille et leur potentiel de travail les rendaient particulièrement productives dans les économies en développement. Cependant, l'omniprésence du sexisme et les inégalités structurelles limitent fortement ce potentiel. L'inclusion financière reste un problème sérieux. Les femmes n'ont toujours pas accès à la banque, sans parler du capital nécessaire pour développer une entreprise. L'Angola veut négocier un prêt chinois de plus de 15,5 milliards pour financer des projets de développement. Ce financement devrait servir à la mise en œuvre de plusieurs projets multisectoriels. C'est notamment les infrastructures, l'énergie, le système de transport d'électricité du barrage Lotchimo et la construction d'une académie navale à Kalunga. Une semaine de négociations commerciales intenses à Washington. L'administration Trump négocie avec ses principaux partenaires commerciaux, l'Union européenne, le Canada, le Mexique et la Chine. Ce mardi, le secrétaire américain au commerce doit s'entretenir avec la commissaire européenne au commerce sur les taxes douanières américaines sur les importations européennes d'acier et d'aluminium. Washington exige une plus grande ouverture du marché européen pour annuler ces taxes et Bruxelles exige l'exemption complète et inconditionnelle avant d'entamer toute discussion.
À présent, la page des sports avec vous, Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane. Bonsoir à tous.
Deuxième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions.
Grosse surprise puisque Kampala City a battu en Ouganda à la Lille 2-0. Défaite aussi du Primero de Agosto au Swaziland à Mbabane 1-0. À suivre au Maroc, le déplacement du tout-puissant Mazembe face à Difa El Jadida. L'Espérance de Tunis contre les Township Rollers du Botswana. Et puis le derby algérien entre Sétif et le Mouloudia Club d'Alger. Enfin, le Wydad à Casablanca qui accueille la AS Togo Port.
La pré-liste tunisienne pour le Mondial 2018 est connue.
Eh bien, la liste des 29 joueurs convoqués par la Tunisie en vue du Mondial 2018 a confirmé l'absence de l'attaquant vedette Youssef M'Sakni, blessé à un genou, mais également la présence en force chez les Aigles de Carthage des binationaux. Parmi la sélection élargie qui devra être réduite d'ici au 4 juin, figure en effet une douzaine de joueurs évoluant dans des clubs européens, dont une bonne partie ayant été formée, dont les Français, entre guillemets, Johan Benalouane et Yarbi Kazri. On rappelle que les Tunisiens doivent rencontrer en amical le Portugal le 28 mai à Braga, la Turquie le 1er juin en Suisse, puis l'Espagne en Russie. En Russie, pour la Coupe du Monde, les Tunisiens sont dans le groupe G avec la Belgique, l'Angleterre et le Panama.
Neuer dans la pré-liste allemande pour la Coupe du Monde.
Le gardien Manuel Neuer, qui n'a plus joué depuis septembre, a été retenu dans la pré-liste du sélectionneur allemand Joachim Löw pour le Mondial de football. Sans grosse surprise, cette sélection comporte un amalgame entre les stars de la victoire de 2014, Müller, Boateng, Hummels ou Kroos, et les jeunes ambitieux, notamment Draxler, Kimmich et Werner. On rappelle également que le contrat du sélectionneur allemand Joachim Löw a été prolongé jusqu'en 2022 par la fédération allemande.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Ah oui, Golden State, qui a fait le dos rond pendant les deux premiers quart-temps de la première manche de cette finale de la Conférence Ouest, avant d'assommer au retour des vestiaires Houston, battu 119-106 devant son public. James Harden a fini meilleur marqueur, 41 points. Le vainqueur de ce duel sera opposé à Boston ou à Cleveland. Les Celtics mènent une victoire à 0 dans la finale de la Conférence Est avant le deuxième match ce mardi soir.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. On passe à présent au dossier du jour. Au Burkina Faso, le préfet de Oursi, une localité frontalière du Mali, a été tué la nuit du lundi à mardi par des djihadistes présumés. Depuis ces deux dernières années, la région est sous une constante attaque terroriste avec un bilan officiel de 133 morts dans 80 attaques dans cette région. Des centaines d'enseignants ont aussi abandonné la région du Nord. Et pour savoir un peu plus sur cette dernière attaque, Bagassi Koura a joint Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter.
Là, ça commence à faire au fort, parce que quand même, c'est dans un département, c'est le représentant du chef de l'État, c'est le représentant de tout le gouvernement. Donc, si on arrive effectivement à ce niveau de ciblage des autorités, parce que il y a comme une sorte de montée en puissance, parce que souvenez-vous que c'est un maire, le maire de Koutoukou, qui a été assassiné dans sa commune.
Le 8 avril.
Ensuite, aujourd'hui, un préfet de département, ça montre aussi que les terroristes, ou en tout cas, les terroristes ou les groupes qui sont à la base de ces attaques-là, sont en train de monter en puissance. Et ce n'est pas rassurant parce que si on peut avoir appel les premières autorités dans un département, ni plus autre ne peut que t'en être à l'abri dans ce département.
Est-ce qu'on a eu une réaction officielle depuis là?
Pour le moment, je n'ai pas vu personnellement une réaction officielle par rapport à ce drame. Mais je pense que ça ne saurait tarder. D'ici là, on verra certainement que le gouvernement ou en tout cas une voie officielle va pouvoir effectivement réagir par rapport à cette situation. On avait commencé à penser que c'était de l'intox, mais apparemment, en tout cas, toutes les sources confirment que c'est effectivement officiel, le préfet a été assassiné.
Alors, le préfet a été assassiné, le maire de Koutoukou a été assassiné le 8 avril. Il y a eu des enseignants par centaines qui ont fui la région. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie sécuritaire du gouvernement marche?
C'est là toute la difficulté. On commence à buter effectivement de l'efficacité de la stratégie du gouvernement. Parce que on avait pensé qu'avec l'annonce de la réouverture du tribunal de grande instance de Dibo, la réouverture de certaines écoles dans la zone, le gouvernement était en train de reprendre la main. Mais avec ce nouveau drame, on se rend à l'évidence qu'on est loin de la reprise en main de la situation.
Quelles sont les réactions au niveau de Ouagadougou, la capitale?
C'est la consternation, c'est la stupéfaction, parce que au niveau de Ouagadougou, les gens ne pensaient pas qu'on allait arriver là, ou du moins qu'on pouvait arriver là, mais finalement, on se rend compte que ce qu'on redoutait est en train d'arriver, et il y a de fortes chances que ça provoque encore un nouvel exode de fonctionnaires et autres agents publics dans la zone.
C'était Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler que Le Monde au féminin, c'est à 19h05 temps universel ce mardi. Quel espace pour les jeunes dans les villes américaines? L'invité LMF, Edouard Abba, originaire de Guinée, est le président du conseil municipal de Hyattsville dans le Maryland, où grâce au conseil consultatif des adolescents, le droit de vote a été étendu aux 16-17 ans pour les municipales. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi à la même heure. À tout à l'heure.
Les Burundais se prononcent jeudi par référendum sur une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en place jusqu'en 2034. Le projet de révision a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine, qui n'a pas envoyé d'observateurs. Pour la FIDH, la campagne a été à sens unique. Jacques Aristide s'est entretenu avec Justine Duby, chargée du Burundi dans cette organisation.
Le camp présidentiel a mené une campagne très vaste de répression pour s'assurer que la Constitution serait adoptée. On a le sentiment que voilà, un plan bien huilé d'intimidation des opposants au référendum a été mis en œuvre. Le président lui-même, déjà à partir de novembre dernier, avait annoncé que toute personne qui s'opposerait au processus de référendum serait expédiée au ciel, selon ses propres mots. Nous avons documenté des meurtres, des passages à tabac, des actes de torture, des des arrestations et des détentions illégales.
La FIDH et la Ligue ITK affirment que ce projet menace directement les équilibres issus de l'accord d'Arusha. Brièvement, expliquez-nous comment.
Ces équilibres et ces principes ont été dans la pratique largement dévoyés depuis 3 ans par les différentes mesures qui ont été prises par les autorités qui ont déjà concentré les pouvoirs entre leurs mains. Le parti présidentiel, le CNDD-FDD, depuis longtemps ne reconnaît pas ces accords. Donc pour eux, c'est une stratégie qui vise à court-circuiter l'accord d'Arusha en modifiant la constitution actuelle qui reconnaît que l'accord d'Arusha a une valeur supraconstitutionnelle, c'est-à-dire qu'il vaut plus que la constitution. Et donc leur objectif, et ils l'ont déclaré publiquement, c'est de se détacher des liens légaux qui les obligent face à cet accord, dont l'objectif était, après la guerre civile des années 90, qui a fait des milliers de morts, de ressouder la société burundaise et de réconcilier les Burundais entre eux. Et dans le nouveau projet de constitution, il y a différentes dispositions qui concentrent les pouvoirs entre les mains du président et qui enlèvent des prérogatives au gouvernement, au Parlement, qui permettaient justement d'assurer cette représentativité de l'ensemble des forces burundaises au sein du pouvoir.
Mais pour le gouvernement, le projet ne vient en aucun cas enterrer les accords d'Arusha. Il s'agit plutôt, d'après ce même gouvernement, de doter le pays d'institutions fortes, capables de mettre le Burundi à l'abri des crises cycliques de manière définitive. Ne faut-il donc pas donner le bénéfice du doute à ce régime burundais et attendre de voir ce que cette réforme apportera au pays ?
Pour nous, les objectifs de cette réforme sont très clairs. Quand le Burundi, les autorités burundaises disent qu'il faut adopter ce nouveau projet de constitution pour doter le Burundi d'institutions fortes, quand elles disent qu'il faut réformer le code de procédure pénale pour faire face à la criminalité, nous ce qu'on constate, c'est que la crise actuelle, la violence et les fractures qui divisent de plus en plus les Burundais, elles sont alimentées et générées par les autorités elles-mêmes. Et donc, pour nous, ce projet constitutionnel est un stratagème pour renforcer le pouvoir au sein des mains du président Nkurunziza.
C'était Justine Duby de la FIDH.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Bénin, ça grogne de plus en plus dans les rangs des journalistes de la presse privée. Ils dénoncent une situation précaire et pointent du doigt certains patrons de presse, des journalistes sans contrat de travail, sans salaire, sans protection sociale. C'est ce que nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La libéralisation de l'espace médiatique béninois a permis l'éclosion d'une multitude d'organes de presse. De deux radios à peine à la fin des années 80, on en compte aujourd'hui plus de 113, 15 chaînes de télévision et 63 journaux ayant une base légale, à côté de plusieurs autres dizaines, naviguant dans l'illégalité. La libre pluralité de l'expression qui donne aux médias le rôle de quatrième pouvoir cache bien des réalités d'une grande tristesse. Modeste Dossa est journaliste au sein d'une chaîne de télévision privée Golf TV Africa. Il parle d'une précarité qui finira par achever le journaliste de la presse privée.
Il faut avouer que le journaliste béninois dans la presse privée ne vit véritablement pas bien. Nous avons des patrons de presse qui pensent d'abord à leur poche avant de penser à ceux qui véritablement leur permettent d'avoir un nom. Dans la presse béninoise, rares sont ceux qui peuvent dire qu'ils tiennent véritablement le coup. Il faut forcément pactiser avec le diable, c'est-à-dire se mettre à la disposition d'un politique, se mettre à la disposition d'une association. Et dans ce cas précis, vous ne faites plus le journalisme puisque des comportements vous sont dictés de l'autre côté.
En parler pourrait vous contraindre à un chômage immédiat. Bien de patrons de presse ont fait signer à leurs employés des documents qui les empêchent de se plaindre au risque d'en payer le prix fort. Fortuné Sousa est journaliste, président de l'Association des journalistes culturels du Bénin. Il parle ici du non-respect de la convention collective qui fixe le salaire à au moins 120 000 francs CFA.
Le plancher, c'est 120 000 francs pour un journaliste qui vit à Cotonou ou dans les centres urbains, mais curieusement, malgré ces chiffres qui sont dérisoires, la majorité des patrons de presse ne payent pas. Il y a beaucoup de journalistes qui ne sont presque pas payés. Il y en a qui sont payés presque à 6 mois ou à 10 mois sur l'année. Donc ça fait que le journaliste béninois, notamment dans la presse de service privé, vit mal.
Le salaire le plus bas est de 15 000 francs CFA parce que le patron espère que sur le terrain des couvertures médiatiques, le journaliste pourraient se faire payer les frais de déplacement. Du coup, beaucoup se lancent dans une sorte de rançonnement et de chantage. Un directeur général est payé à moins de 200 000 francs CFA. Il s'arroge toutes les couvertures médiatiques du mois pour avoir le complément. Pour Benoît Adadja, la presse privée en elle-même est très malade.
Là, nous avons connu les pires moments de notre histoire. Sans nécessaire, avec beaucoup de journaux qui n'ont pas de siège, qui n'ont de siège que dans leur sac, et qui écrivaient n'importe quoi, qui attaquaient directement la vie privée des gens, qui voulaient régler des comptes. Une presse totalement clochade, une presse agonisante.
Beaucoup se font renvoyer sans aucune autre forme de procès dans le silence et la complicité des associations fêtières qui, pour le moment, ne sont d'aucun secours pour le journaliste de Cotonou, Ginette Fleur Adandé, pour VOA Afrique.
En marge du mouvement mondial du do-it-yourself, les amoureux de l'inventivité et de la débrouillardise à la togolaise viennent d'organiser une grande rencontre à Lomé, l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes d'apprendre, de s'amuser, de discuter et d'exposer leurs nouvelles trouvailles. C'est un récit de Dili Diko.
Samedi dernier, les amoureux du do-it-yourself, DIY, se sont donné rendez-vous à l'Institut français du Togo à Lomé, pour la deuxième édition du Lomé Mini Maker Fair. Écoutons Valérie Kounake-Kodogoli, co-organisatrice de l'événement.
Faire par soi-même, c'est effectivement une nouvelle manière de voir le monde, parce qu'on arrive à trouver toutes les informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les livres, on arrive à obtenir toute la méthodologie pour arriver à démonter un portable tout seul, à créer un projecteur, à remonter un vélo. L'Afrique y arrive aussi.
Pour l'occasion, l'Institut a pris des allures de gigantesques terrains de jeu pour curieux, inventeurs, enfants et écologistes. Au Lomé Mini Maker Fair, Oussia Asiongbon, responsable d'atelier et fondateur de l'incubateur Ecotech Lab, se remémore les débuts de l'imprimante 3D au Togo.
Ça a commencé au Togo avec M. Afat Minkou, qui était au WELAB dans le temps. Et donc nous avons un peu reproduit la même chose pour faire notre imprimante. Et donc il y avait les déchets d'équipement électrique et électronique. Nous avons assemblé cela pour faire la structure. Nous, on doit improviser. Et c'est ça en fait être maker.
Un peu plus loin, une lycéenne présente au public les robots qui vont participer au concours Robo Rave en juin prochain en France. Anaëlle Rigaud, élève au lycée français de Lomé, nous en parle.
Alors on a ce robot-là qu'on va présenter au lycée pour notre concours. Alors on a une carte où on mettra la programmation. On a un capteur ultrason pour voir les objets. On a deux roues folles et deux roues. Et ici on a le capteur de ligne.
De plus jeunes enfants participent aussi. Un groupe de petites filles sont venues exposer leur projet d'école sur la vie du marché. Rosalie Bossiade est élève de primaire à l'école arc-en-ciel de Lomé.
Dans cette unité sur les marchés, nous avons appris c'est quoi le commerce et toutes les choses à savoir sur le marché.
Alia Ameonu est elle aussi élève de primaire à l'école arc-en-ciel de Lomé.
Nous avons créé notre propre monnaie qui s'appelait le MES, monnaie d'échange scolaire.
Rosalie ajoute au sujet de cette monnaie d'échange.
Les messes s'échangeaient comme des services, c'est-à-dire que si une personne rend un service à une autre, on s'échange contre 10 messes. Et à la fin, tout le monde a récolté des messes pour avoir suffisamment d'argent pour acheter à notre marché.
Lomé Mini Maker Fair, c'est le lieu idéal de l'ingéniosité et de la créativité à la togolaise.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique, restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats, RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci à Georges Léonard Sagnot qui l'a réalisé. Merci également à Bill Barber qui était à la console. Présentation Abdourahmane Dia. Au revoir.